Le début d'une nouvelle année est souvent le temps des vœux. J'imagine que vous en avez souhaité à pas mal de monde autour de vous. Et c'est aussi parfois même le temps des vœux pieux. Alors je ne sais pas si vous avez choisi de prendre quelques bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Moi je m'abstiens parce que je ne suis pas sûr d'aller plus loin que 2 ou 3 jours. Donc j'évite. Mais c'est là quand même, dans ce temps d'un début d'année, une belle tradition que de se souhaiter surtout, au sein des proches, le bien pour l'autre. De vouloir vraiment que Dieu puisse le bénir aussi dans sa vie, tout au long de cette nouvelle année qui se présente. Et le début d'une nouvelle année peut être aussi l'occasion de se projeter en avant, et parfois même de rêver. Je ne sais pas si vous y essayez en début d'année, il y a peut-être d'autres moments aussi importants qui le permettent, mais voilà, parfois nous regardons en avant et nous nous tournons vers Dieu, en voulant remettre aussi toute cette longue année avec parfois des souhaits, des rêves même. De rêver à de meilleurs lendemains, de rêver, pourquoi pas, à un avenir meilleur, tant au niveau professionnel que dans d'autres domaines. Nous avons certainement... pour la plupart, si ce n'est tous, des rêves, des projets. Et parfois même, nous rêvons, alors je ne sais pas si c'est le cas, hein, vous me direz, nous rêvons d'une église meilleure. Alors, tout dépend ce que l'on met aussi derrière ce mot-là. Même peut-être d'une église parfaite. Alors je ne sais pas si nous en allons jusque-là aussi. Mais plus encore, quand nous sommes à la recherche d'une communauté chrétienne, nous la souhaitons telle que nous l'imaginons, telle que nous la rêvons. L'église qui sera la mienne, quand nous sommes parfois à la trouver suite à un déménagement, un changement de lieu ou quoi que ce soit d'autre. Nous la rêvons et nous la recherchons. Et au fait, et sans pour autant lancer de polémique, nous ne sommes pas là pour ça, surtout pas ce matin, mais à quoi ressemblerait pour vous l'église de vos rêves? L'église idéale? Dites-moi tout. On va se prendre, allez, quelques instants, mais... je ne vais pas faire tout à fait comme à Gabriel. Lui, il avait posé la question d'une manière plus classique. J'ose aller plus loin. Quelle serait pour vous l'église de vos rêves, l'église idéale? Ne vous lâchez pas trop, mais osez répondre. Alors, qui pour commencer? Il en faut toujours un premier. Voilà. Donc, où ils sont tous grands, très grands. D'accord. Ouais. Une église où tous croissent. Intéressant. Alors, redis-le. Une église qui ressemble à la manière dont on adore au ciel. Où ils chantent tout le temps, quoi. Ok. Enfin, a priori, hein, je ne suis pas sûr, mais c'est une hypothèse. Intéressant, très très intéressant. Aussi Adeline. Alors, peut-être encore une dernière possibilité. Alors. D'accord, merci Olivia. J'avais cru voir aussi une main levée juste derrière. Très bien. On va arrêter là parce qu'on pourrait prendre après, tous aller dans la rue, discuter amplement, longuement, et prendre un café ou je ne sais quoi pour continuer cette discussion, mais n'allons pas plus loin. Prenons le temps maintenant, on ne va pas forcément voir tout de suite le lien, mais je vais essayer d'y venir. Prenons l'épître aux Philippiens, chapitre 2, c'est un passage très connu, pour beaucoup d'entre nous du moins. Philippiens, chapitre 2, et versets 1 à 5, le tout début. Ça n'est pas forcément l'église idéale telle que nous l'avons imaginée, mais il y a déjà parmi vos réponses des choses qui touchent à ce que nous allons entendre là. Alors, mettons-nous à l'écoute de ce beau texte, de ce début de ce beau texte, puisqu'il y aurait encore toute la suite à lire, mais nous ne prendrons pas ce temps-là. Donc, Philippiens, chapitre 2, et les versets 1 à 5. Alors, je vais le lire dans ma traduction la plus habituelle pour moi, la version où se meurt. Et écoutons ces paroles de l'apôtre Paul, qui commence ainsi, sous la forme de questions. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement et par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Voilà, nous arrêtons là notre lecture et nous allons poursuivre ensemble à méditer sur cette parole. Par ces mots, Paul nous questionne. D'ailleurs, il commence sous la forme de question, comme je vous l'ai dit. Il nous questionne non seulement, mais nous exhorte plus encore. Il nous exhorte à considérer le fondement qui permettra à l'Église, à la communauté des frères et sœurs, de trouver la victoire. Et cette victoire se trouve très simplement en Christ lui-même. Cela va sans dire, vous me direz. Nous n'apprenons presque là rien de nouveau, quoique. D'ailleurs, bien que nos traductions au premier verset disent souvent « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ?» etc. Mais juste ce début-là, sachez que le mot employé ici, traduit par « réconfort », peut aussi prendre le sens d'exhortation, d'encouragement. Autrement dit, Paul le dit ainsi, mais aurait pu tout aussi bien dire, et c'est ce qu'il dit à la fois, « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ une exhortation, un encouragement ?» Et pas juste un réconfort. Enfin, j'exagère, hein, le geste est là pour l'accompagner, mais il faut y voir plus que cela. Autrement dit, c'est en Christ que nous trouvons le courage pour mener la victoire, pour mener le combat spirituel qui nous attend, semble nous dire Paul, en ouvrant ce passage, par cette question rhétorique. Parce que la question est posée, mais elle n'attend pas de réponse. La réponse est évidente. Elle est déjà là, presque dans la question, telle qu'elle se pose. Car en effet, il n'attend pas de réponse de la part de ses lecteurs. Ce questionnement est donc bien là pour mettre en lumière Christ, comme la source de tout encouragement, de toute exhortation dans nos vies spirituelles et fraternelles. Et bien que dans les versets qui précèdent notre texte, ce que nous n'avons pas été lire, Paul encourageait l'Église de la cité de Philippe à tenir ferme face aux ennemis extérieurs, face certainement à des persécutions et autres. Nous entendons ici cette exhortation à trouver la victoire, non pas dans un combat spirituel vis-à-vis de l'oppresseur extérieur, de cet ennemi, mais bien face peut-être au plus féroce de nos ennemis, nous-mêmes. Nous sommes le plus dangereux de nos ennemis dans notre vie chrétienne, assez souvent. Et là où certains, si ce n'est beaucoup, s'efforçaient au sein de la communauté à développer ou à faire valoir leur personnalité pour s'affirmer face à des frères et à des sœurs dans la communauté, Paul nous exhorte à l'humilité. Une humilité qui place l'autre comme plus important que soi. Mais alors, parce que ce qu'il dit là semble évident, semble compris, comment vivre cette réalité? Parce qu'il est bien beau l'annoncer, d'exhorter, mais comment le vivre? Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Pourrait-on légitimement se demander? Juste avant, tout à l'heure, je vous avais posé une question que je trouvais intéressante. Pas primordiale, mais intéressante. Je vous la repose. On ne va pas y répondre à nouveau, mais à quoi ressemblerait l'Église de vos rêves ou l'Église idéale si vous le préférez? Alors, il y a eu quelques éléments de réponse, on n'a pas cherché à tout lister. On aurait pu, je pense, faire tout un cahier de doléances, hein, s'il avait fallu. Mais comment traduire cette invitation que nous entendons chez Paul à être unis, à vivre la fraternité dans l'humilité, au sein notamment, et je prends notre situation, je ne vais pas faire dans l'absolu, je veux rester dans un cas qui nous semble le nôtre, au sein de cette grande métropole qu'est la région parisienne et de sa large banlieue dans laquelle nous vivons. Notamment, si on regarde à notre société actuelle, et peut-être plus encore à ce qui se vit dans cette région, qui change un petit peu, et contraste parfois avec d'autres endroits de France et d'ailleurs, il y a bien au moins une chose qui prévaut, ici même, dans la région parisienne. Le nombre grandissant et important d'églises protestantes évangéliques. Il y en a à peu près partout. Là d'où je viens, il faut 60 km entre chaque communauté. Ça prend un peu de temps pour les rejoindre, les chrétiens. Mais ici, ça n'est pas la difficulté. Il y en a à peu près partout. Presque toute commune a certainement au moins une communauté protestante évangélique, peut-être même plus. Et ce fait associé que nous sommes ici dans une région où les populations en plus bougent régulièrement, souvent, déménagent souvent et se renouvellent rapidement, amène nombre de chrétiens ainsi que de gens à chercher une église nouvelle. À passer d'église en église, parfois même à avoir du mal à se fixer, à trouver la communauté dans laquelle vivre sa foi et s'y épanouir. Et surtout, surtout, rendre grâce à Dieu. Puisque c'est pour ça que nous venons à l'église, je crois. Nous venons pour y vivre notre foi, nous y épanouir spirituellement et rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas là l'intérêt, le mot n'est pas très beau là, mais ce pourquoi nous venons à l'église, ce pourquoi nous avons besoin d'une église, d'une communauté. Je les réénumère une dernière fois, mais vivre sa foi, s'y épanouir spirituellement, rendre grâce à Dieu, et il manque pas un truc là, au moins. Qu'est-ce que nous voulons vivre dans l'Église aussi? Je vous le rappelle, hein, vivre sa foi, s'y épanouir spirituellement, je généralise, je fais très large, hein, rendre grâce à Dieu. C'est déjà un gros programme hein, quand même, hein. C'est pas mal. La communion fraternelle. Vivre la fraternité. Sinon, chacun fait sa petite église chez lui. Hein. Et là, il y aura beaucoup d'églises, c'est sûr. Énormément. Mais le problème, c'est qu'une église, c'est un rassemblement. Se rassembler seul, ça ne va pas très loin en termes de rassemblement. D'ailleurs, il n'y en a pas. Aussi, quand nous nous attachons à une église, à une communauté de foi, nous apportons avec nous très souvent un grand sac. Je fais appel à vos souvenirs récents, parfois anciens, mais le jour où vous avez, que ce soit ici ou les autres églises, vous avez pu connaître, parce que nous cheminons, nous en connaissons souvent plusieurs. Le jour où vous êtes arrivé dans cette communauté, qui est la vôtre aujourd'hui, ou celle qui furent la vôtre aussi hier, n'aviez-vous pas avec vous un grand sac, rempli de beaucoup de choses. Le sac de nos idéaux, le sac de nos rêves pour l'église que j'ai envie de rencontrer, dans laquelle j'ai envie de vivre. N'aviez-vous pas au moins, allez, un petit sac, un sac à dos, un sac d'expédition, une malle, non, je ne sais pas, à vous de voir de quoi était-elle remplie. Parfois, ce sac, quand nous nous trouvons dans une communauté, que nous voulons y demeurer, on le dépose très vite et on l'ouvre. Car on aimerait voir l'Église de notre choix tendre vers cet idéal et ressembler plus encore à celle de nos rêves. Parfois, nous sommes ainsi. Ce sac, nous l'ouvrons et puis voilà, nous sortons les choses, nous voulons les faire connaître. Parfois, pour d'autres personnes, on peut même attendre longtemps avant d'oser poser ce sac avec lequel nous sommes arrivés dans cette communauté, voire même on le garde sur le dos. Car si dans le doute, cette sympathique église que j'ai cru découvrir, qui me plaisait au tout début, semble me décevoir par la suite, alors on se trouve prêt à continuer notre chemin. Après tout, il est déjà là, prêt. J'ai plus qu'à y aller, puis le jour où je trouverai enfin l'église rêvée, je pourrai enfin peut-être le poser. Retenez ceci. L'église, c'est-à-dire la fraternité chrétienne. la communauté de frères et de sœurs que Dieu nous donne est tout sauf un idéal. J'ose le dire ainsi. Ça va peut-être vous sembler étonnant de l'évoquer, mais la fraternité chrétienne n'est pas un idéal. Bon, je vais le définir, je vais vous aider aussi à me comprendre. Mais elle est une réalité donnée par Dieu. L'Église, je reprends un peu ce que Gabriel avait essayé de nous dire, et des réponses que nous lui avons apportées d'ailleurs quand il avait lui-même posé une question. L'Église, si nous prenons un peu la Bible, est notamment le rassemblement des saints. Vous, nous, qui vivent la réalité du royaume de Dieu, mais dans son imperfection. Nous vivons la réalité du royaume de Dieu, aujourd'hui, déjà, mais dans l'attente de la venue d'un royaume de Dieu dans sa plénitude, dans sa perfection. Autrement dit, si la perfection est à venir, aujourd'hui, nous sommes dans la réalité d'un royaume de Dieu qui continue dans une forme d'imperfection. Oui, je redis, l'Église n'est pas un idéal, dans le sens où elle ne doit pas être l'endroit où je viens m'efforcer de réaliser mes rêves. Si je le dis ainsi, et bien que cela peut-être puisse vous arrêter, c'est bien parce que j'entends que tôt ou tard, si nous restons dans la rêverie, dans l'idéalisme, et là je prends les deux mots d'une manière un peu plus péjorative, je pense que vous l'entendez, un jour alors nous risquons d'être submergés par de profondes désillusions. Tout d'abord au sujet des autres, de vous tous. Non, non, rassurez-vous, ça n'est plus ainsi. Tout d'abord au sujet des autres, bien sûr, mais parfois même de Dieu. Où es-tu? Regarde ce qui se passe ici. Regarde comment sont tels et tels frères. Je prie pour eux depuis si longtemps et rien ne change. J'exagère, mais voilà parfois comment nous sommes quand nous envisageons l'Église sous l'angle de l'idéal, du rêve. Et parfois, nous sommes aussi tout d'un coup submergés de profondes désillusions à propos de nous-mêmes. Et là, ça peut être salvateur. Et c'est d'ailleurs quand nous venons à connaître la désillusion au sujet des autres, plus encore des chrétiens, bien évidemment, à commencer par soi-même, que Dieu veut nous conduire à la connaissance d'une vie chrétienne véritable. Je grossis un peu le trait, mais il est bon, je crois, de vivre parfois ce genre de désillusion. Non plus d'une vie faite de mes espérances égoïstes, mais d'une vie qui se met davantage au diapason de notre Seigneur. Non plus d'une vie composée de rêves que les autres devraient partager avec moi, mais d'une humilité qui m'invite à aller vers les autres pour les connaître, et de savoir leur témoigner de la grâce du Christ en m'abaissant devant eux pour me faire serviteur, pour me faire disciple de Jésus. Aussi, permettez-moi de le dire sous cet angle-là ce matin, plus l'heure de cette désillusion sonne tôt pour le croyant que nous sommes, mais aussi pour la communauté que nous sommes, mieux cela vaut pour nous. Une communauté doit accepter de passer parfois par de telles désillusions, doit accepter de traverser ce type d'épreuve, afin de renoncer justement à ces mêmes rêves, à ces mêmes illusions, à ces mêmes idéaux. Quand je parle du renoncement de ces rêves, de ces idéaux, tant individuels que communautaires, je parle de toutes ces choses, ces conceptions, ces valeurs, ces traditions qui me retiennent, moi, captif, éloigné de la plénitude de la grâce de Dieu. Ou pour le dire plus simplement, de tout ce qui profondément vient de moi, oups, et m'empêche de pleinement être à l'écoute de Dieu et des autres qu'il m'a donné. Parce que l'un des plus beaux cadeaux que Dieu m'a fait, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, j'ai plus encore le salut que Christ m'a donné, il y a vous tous aussi. Vous êtes les plus beaux cadeaux, après tout ce que je viens de citer, qui me soient donnés. Et ces rêves, ces idéaux, que j'ai encore parfois en moi-même, que je désire voir s'accomplir dans la vie des autres. Parce qu'en général, quand on les a pour nous, c'est bon, c'est réglé, plus ou moins. Mais chez les autres, il y a du boulot. Et c'est là tout le problème. Mais quand je désire voir s'accomplir mes idéaux, mes rêves dans la vie des autres, afin que mon Église soit meilleure, tende vers la perfection que moi je connais, plus ceci, plus cela, à bout du compte, tout cela n'est qu'orgueil et prétention. Si par hasard nous sommes encore dans la rêverie, où nous nous projetons dans l'idéalisme de ce que doit devenir notre communauté, alors, gare à nous, car nous nous faisons exigeants. Exigeants, même si nous ne l'imaginons pas tout de suite, exigeants envers Dieu. Parce que nous aimerions que Dieu transforme l'Église telle que moi je la vois. Enfin, telle que moi je la désire, même plutôt. Exigeants envers les autres. Parce que j'aimerais qu'ils soient plus conformes à mon projet, à ma vision que je devrais avoir pour l'Église. Et exigeant aussi, et ça ne sera peut-être pas un mal, envers nous-mêmes. J'aimerais que je sois comme ceci dans l'Église parce que je crois que ce serait bien pour elle. Je ne dis pas que c'est profondément mauvais, mais il faut être attentif parfois à ce que nous exigeons envers nous-mêmes pour que nous soyons là tout d'un coup au bien de l'Église. Oui, exigeant car nous voulons de Dieu et des autres surtout qu'il réalise et bâtisse l'Église qui est la mienne. Et quand je dis la mienne, c'est celle qui fonctionnerait et s'articulerait autour de ma foi, de mes lois. Une telle Église, une telle communauté si idéale ne serait donc qu'une communauté composée de frères et sœurs dont je serais presque le seul juge, parce que je désigne ceux qui le sont vraiment et ceux qui sont encore en chemin pour le devenir pleinement. Ce que je dis là, bien sûr, est presque caricatural, voire laid. C'est voulu, juste pour pousser un peu dans les derniers retranchements, mais de montrer parfois que, plus subtilement, nous en sommes à des petits stades comme ça, parfois dans un domaine, parfois dans plusieurs, où nous désirons que l'Église soit conforme à ce que moi, je pense être bon. Sans profondément écouter le Seigneur, d'ailleurs. Parce que ce que je sais, c'est que ça vient de Dieu, obligatoirement. Après tout, je le loue, je l'écoute, je lis sa Bible, etc. Donc, ce que je veux est la volonté du Seigneur. Maintes fois, les hommes se sont entre-déchirés dans les églises pour ce genre de conception, ce genre de manière de voir. Effectivement, quand deux frères se disent être les porte-parole du Seigneur et qu'ils ont deux regards différents, alors soit c'est que Dieu, quelque part, et je ne sais plus quel est le terme, mais là, pour les personnes là, qui ont presque deux personnalités en eux-mêmes. Schizophrène, voilà. Soit nous faisons de Dieu un schizophrène, problématique quand même, et j'ai du mal à le voir là, même dans la Bible. Je pense que c'est plus nous qui ne savons pas l'écouter. Et très souvent, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, ce sont les deux. À des degrés. N'allons pas aussi dire que tout le monde est mauvais. Ce n'est surtout pas le cas. Mais comme je l'ai dit, si ma manière peut-être d'exprimer ici semble caricaturelle, excessive, voire grotesque, elle se vérifie quand même, malheureusement, de temps à autre, notamment dans les temps de crise dans nos communautés. Et je ne parle pas ici pour nous, mais maintes communautés, surtout protestantes, vivent des crises, parce que nos égos surgissent pour des choses, des motifs, des domaines, etc. Et là, les choses parfois dégénèrent, surtout quand le sujet est considéré comme sensible dans la communauté, ou par une partie de la communauté. Et quand nous vivons plus vivement selon ce genre d'idéaux, nous commençons alors à nous imposer nous-mêmes avec dureté, à multiplier les reproches, même dans le secret de nos cœurs au sujet de frères et de sœurs qui m'ont été donnés par Dieu. Ils sont imparfaits, hein. Je vous l'avoue, vous êtes imparfaits, mais je le suis aussi, et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et quand cela en plus n'avance pas selon notre volonté, ma volonté, nous considérons alors cela comme un échec parfois. Regarde, Seigneur, à quel point mon Église est encore à ce niveau-là, pour cela, pour ceci. Alors j'exagère, hein, mais nous le voyons parfois dans nos vies. Et là où nos rêves se brisent, là où nos idéaux tout d'un coup s'échappent et finissent en fumée, nous voyons, nous, si nous en restons arc-boutés à ce genre de choses, nous voyons la communauté s'effondrer, selon nous. Et là, nous en oublions que Dieu tient cette communauté dans sa main, avec ses imperfections. Mais il la tient et il la pousse en avant. Et le danger, c'est que, en restant encore dans cet excès, je ne pense pas que nous en soyons là, mais nous devenons accusateurs de nos frères. Nous devenons aussi, même, pourquoi pas, à l'image de ce qu'est Adam, l'accusateur de Dieu, à travers nos frères et sœurs. Et parfois, même quand nous allons vraiment plus bien, si nous sommes vraiment dans cet excès, nous devenons aussi l'accusateur désespéré de nous-mêmes. Parce que la situation est en échec. Rien ne va plus. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés dans les églises. Mais parfois, ce sont ces regards-là, ces manières-là de vouloir s'imposer qui amènent des difficultés plus encore. Bien sûr, très souvent, nous sommes très loin, et bien heureusement, de la caricature que je vous dresse là. Mais cela ne nous empêche pas de vouloir façonner l'Église à l'image de nos rêves. Surtout dans des périodes où parfois nous avons la possibilité de nous projeter en avant. Parce que des défis nouveaux nous sont posés, que nous avons aussi des possibilités, que nous avons des propositions. Je ne vais pas en faire cas aujourd'hui, nous y viendrons prochainement. Mais oui. Au fait, tout à l'heure quand je vous ai posé la question... Quelle est pour vous l'Église idéale? Je ne vous ai pas dit la mienne. Vous voulez la savoir? Ouais? Ok. Je vais essayer de la faire courte, hein, sinon je peux m'étaler et en faire tout un roman. Mais j'aimerais que vous tous, mes frères et sœurs, alors ceux qui ont au moins 18 ans, hein, vous verrez, il y a une condition quand même, que vous ayez tous enfin le permis moto. C'est la voie de la sanctification, croyez-moi. On est libre, enfin, quand on est motard. Et de vous voir un jour tous venir au culte, en Kawasaki, en Harley, alors je ne cherche pas à faire de la pub, hein, on pourrait toutes les citer les marques, hein, je les aime à peu près toutes, plus ou moins. Et je prie beaucoup pour cela. Et oui. Malheureusement, Dieu n'a pas l'air de vouloir m'entendre, car je ne vois pas encore le changement opéré dans vos cœurs de devenir ce cœur de motard, de ce cœur qui est pris de liberté, de gros bruit, de mécanisme. Bon bref, j'exagère, vous me voyez venir. Là, ici, par l'humour et la blague, je peux montrer comment on peut être parfois. Mais plaisanteries mises à part, il nous faut savoir, parfois, encore, renoncer à nos rêves, à nos idéaux, pour l'Église. Parce que c'est très souvent très égoïste, et c'est là où ça cloche. Afin de faire surtout œuvre, et je reviens vers Paul maintenant, après mon illustration, afin de faire œuvre d'humilité et de vivre plus abondamment la grâce que Dieu nous invite à connaître, à vivre au jour le jour, et plus encore au sein de la communauté. C'est le lieu où nous devons et nous pouvons expérimenter la grâce, plus qu'ailleurs. Au boulot, vous pouvez, mais ça va être plus difficile. Parce que les personnes qui sont avec vous ne le souhaitent pas forcément, ne la connaissent pas non plus. Abandonner nos idéaux, nos rêves, nous libèrent et nous rapprochent de ce que Dieu m'a donné. C'est un peu comme dans les couples. Au tout début, tout est miel, fleurs bleues et tout ça, dans la période amoureuse, avant le mariage, puis quand vient le mariage, et puis les premiers mois, voire les premières années. Or là, les idéaux s'effondrent un peu. Le rêve, le projet, la manière que j'entrevoyais l'autre n'est plus tout à fait aussi idyllique qu'avant. Eh bien, ce doit être pareil aussi. Pour construire une relation plus solide, plus vraie, plus sincère avec les frères et sœurs. Et dans tout couple, c'est pareil. Si nous n'y parvenons pas et que nous restons accrochés à nos idéaux, malheureusement, et c'est parfois pour cela aussi que très vite, les couples se séparent après. Je ne parle pas forcément au sein de nos communautés, de nos frères et sœurs, mais dans la vie de tous les jours. Nous sommes amenés à vivre une relation qui n'est pas la même. Hein. Je ne veux pas aussi faire de vous mes épouses. Rassurez-vous, alors je parlais à tout le monde, hein, pas seulement à ces dames. On évite les gaffes. Mais abandonner nos idéaux nous permet de goûter à cette humilité. Ce n'est plus moi qui viens, c'est vous qui m'intéressez. Pour que je puisse vivre ma foi avec vous et grâce à vous. Abandonner nos idéaux nous permet aussi de parvenir à ce dépouillement. Celui qui vient après, qu'on n'a pas été lire, mais qui est l'apanage du Christ. Lui, il s'est dépouillé de toute chose. Lui, Dieu qui est venu parmi nous, a renoncé à beaucoup de choses. abandonner nos idéaux, nos rêves. C'est aussi faire un pas de plus, et parfois même un pas de géant vers la maturité chrétienne. Car alors, nos frustrations pour telle chose ou telle autre, dans la vie communautaire, ne devient tout d'un coup plus un sujet de grognement ou de colère. J'ose pas prendre un exemple, j'ai peur que ça... des personnes se sentent ciblées. Mais prenez un peu tout ce qui fait notre vie chrétienne, sans aller trop loin dans les détails. Notre manière de prier, notre manière de chanter, la manière dont le pasteur a de prêcher. Oh, on aimerait franchement qu'il soit plus comme ceci, qu'il dise plus ça, etc. Je suis imparfait. Je ne serai jamais le meilleur des prédicateurs qui soit, malheureusement. Je m'efforce, hein. Je ne laisse pas tomber les choses. Je sais que je me dois d'être attentif à comment je peux peut-être éviter de faire mal certaines choses. Et peut-être je fais de nouvelles gaffes en essayant de corriger certaines autres. Bref, mais nous demeurons imparfaits. Mais oui, nous devons abandonner nos idéaux pour éviter de gamberger, de rester emprisonnés dans nos frustrations, qui nous amène très souvent à cultiver des colères, des grognements, des regards négatifs sur mes frères et sœurs, et à ne voir que ça à la fin, en fait, à ne retenir que ça. Mais que, justement, l'abandon de ces idéaux, de ces rêves, nous ouvre peut-être à devenir plus patients, les uns pour les autres. On a besoin, hein, d'être patients les uns pour les autres. Ça commence déjà dans les couples, pour ceux qui l'ont expérimenté, mais aussi à être plus à l'écoute. Parce que quand tout d'un coup je renonce à mon point de vue, je deviens plus disponible pour l'autre. Nous en arrivons aussi, parce que nous abandonnons ces rêves et ces idéaux, à nous ouvrir à plus de discernement. Je ne suis plus à m'écouter moi-même, mais je commence à me faire plus attentif à ce que Dieu me dit. Et à ce qu'il cherche à me dire parfois aussi avec les frères et sœurs qu'il m'a donnés. C'est là, d'une certaine manière, l'une des voies de sagesse que le Seigneur nous demande d'emprunter. Abandonner nos idéaux, c'est accepter le plan de Dieu dans nos vies. Non pas celui que moi je façonne avec ma foi, ma connaissance biblique, ma connaissance de Dieu, mais plus encore me mettre vraiment à son écoute et de voir ce qu'il désire. Et pour moi, et pour nous. Abandonner nos idéaux, abandonner nos rêves, c'est aussi nous laisser façonner par le grand potier, lui, notre Dieu, notre Seigneur, afin qu'il nous modèle tel l'enfant qu'il veut que nous devenions petit à petit. Ou pour le résumer, et venir à achever le message que je voulais vous donner par cette illustration surtout, abandonner nos idéaux, abandonner nos rêves, c'est laisser le don de la grâce divine emplir notre vie, nos vies de sa présence. Oser abandonner nos illusions et nos idéaux nous fera entrer davantage dans la grâce divine et de vivre une fraternité en Christ. Une fraternité vraie et libérée de tout carcan. De ces carcans que parfois je m'impose à moi-même, même inconsciemment. Et ça n'est pas pour autant chose facile, mais je crois que Dieu peut nous y aider. Et je pense que Paul, en son temps, ne l'aurait pas dit de cette manière-là, mais s'il avait été là, aurait osé dire quelque chose de cet ordre-là, pour nous. Surtout, l'Église est tellement diversifiée, a de multiples attentes aujourd'hui, dans ce contexte très moderne et très changeant, que nous voulons parfois y mettre beaucoup de choses. Et sans recul. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est parfois le problème du recul, de la concertation, de l'écoute des autres, qui est une difficulté. Aussi, voilà une possibilité que je vous offre ce matin à propos de cette humilité dont nous parle Paul. Savoir renoncer à nos idéaux, à nos rêves, au sein de la communauté dans laquelle je veux vivre ma foi, c'est quelque part se faire humble. Savoir renoncer à soi-même. Puis-je, non pas de vous demander de répondre, mais de m'arrêter sur cette question. La question par laquelle j'ai commencé, en fait. Ne prenez pas le temps d'y répondre. Prenez le temps simplement d'y réfléchir à nouveau. Quelle est l'Église de vos rêves ? Attends, laisse-moi finir, Adeline, laisse-moi finir, parce que justement, il ne faut pas répondre, c'est piège. Quelle est l'église idéale, l'église de nos rêves? N'allons pas trop vite. Je vous ai parlé plus tôt que, d'ailleurs le titre que j'ai mis à ma prédication, je ne les donne jamais, pour une fois j'en ai un en plus, j'avais mis de l'église idéale à la désillusion. Qu'il nous faille peut-être abandonner de l'idée d'une église idéale, pour oser laisser Dieu nous éprouver et nous tester par nos désillusions, pour goûter vraiment pleinement à l'Église qu'il nous a donnée, dans laquelle il nous a intégrés, dans laquelle il nous invite à vivre sous sa grâce. Voilà peut-être aussi un peu quel est le projet de Dieu pour nous. Non pas uniquement dans l'absolu, mais dans l'absolu et aujourd'hui concrètement. Et peut-être face aux défis aussi qu'il nous lance, aux perches parfois qu'il nous tend, aux signes qu'il nous envoie. Et ça, nous aurons maintes fois l'occasion, certainement en communauté aussi, de revenir sur des choses concrètes. À propos, je n'ai pas forcément utilisé le mot rêve, nous aurons le droit de l'employer, là je montrais dans l'excès ce qu'il voulait dire. Mais de regarder aussi peut-être au projet que Dieu veut nous inviter à vivre ensemble. Arrêtons-nous un instant, peut-être même inclinons-nous un instant. Chacun. Seigneur, ce matin, je tiens à te remercier de nouveau. Te remercier de nouveau pour toutes tes grâces dans nos vies, mais pour une particulière. En plus de cette œuvre de salut, ce cadeau incomparable que tu nous as fait par ton Fils Jésus. Seigneur, je tiens aussi à te remercier pour ce don, ce cadeau merveilleux aussi de ton Église, de ces frères et sœurs que tu nous offres à chacun. Et Seigneur, c'est parfois là aussi pour nous un défi encore. Aussi, Seigneur, que tu puisses nous aider au plus profond de notre cœur, à commencer par moi-même, à savoir parfois me défaire de mes traits de caractère excessifs, de mes manières de vouloir aussi imposer mes regards, afin que je sois plus à l'écoute, que nous soyons plus à l'écoute de tous ces frères et sœurs que tu nous as donnés. Seigneur, parviens à nous aider, montre-nous comment nous pouvons encore vivre plus encore cette humilité à laquelle aussi ton serviteur Paul nous exhorte ce matin. Montre-nous où nous avons peut-être encore des rêves, des idéaux, des illusions, parfois encore bien ancrées, qu'il faudra nous savoir laisser abandonner, te remettre pleinement pour ne plus y revenir, afin de voir ce que toi, tu as comme projet pour nous. Seigneur, dans cette grande communauté qui est la nôtre, Seigneur, donne-nous surtout la joie, l'humilité aussi d'aller vers les frères et les sœurs peut-être que je connais moins. Les frères et les sœurs peut-être que nous avons peut-être avec plus de difficultés envie d'aller reconnaître et connaître, parce qu'ils me ressemblent moins. Seigneur, surtout que tu puisses en nous encore tisser les liens d'un amour fraternel, vrai, sincère. Que tu puisses continuer de bâtir notre Église en nous transformant nous-mêmes avant toute chose. Oui Seigneur, nous avons grand besoin de toi, nous avons grand besoin et de ta sagesse et de ton amour. Que tu puisses les faire siéger dans nos cœurs afin que nous puissions les uns pour les autres être ses frères, ses sœurs, attentif aux besoins des autres, attentif et désireux de voir l'autre comme plus important que nous-mêmes, afin de renoncer à nos moi, à nos jeux, et à savoir nous mettre à l'écoute, et de toi et des autres. Seigneur, encore que tu puisses nous éprouver au besoin pour vivre pleinement et plus encore cette réalité. Seigneur, que nous puissions surtout regarder à ton Fils Jésus, lui qui s'est dépouillé de toutes choses pour faire le plus humble des serviteurs, auprès même de ses disciples, pour commencer. Qu'il soit pour nous encore l'illustration parfaite de ce que tu nous invites à devenir et à demeurer. Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions là, ce matin encore. Amen.